chers auditeurs. Bienvenue à la saison 1 de mon podcast Klaus Raconteur Enquêteur. Ce podcast-là, dans le fond, je l'ai fait pour qu'on aille un peu ensemble déterrer des sujets de meurtre, de disparition mystérieuse, les Illuminati, les enlèvements, des choses comme ça. Donc, ça se retrouvera là, sous peu là, sur YouTube et sur Spotify dans la section Balados. Et on commence ça en force ce soir avec un cas qui m'a complètement passionné, qui m'a tenu en haleine tout le long que j'ai écouté le documentaire. C'est sûr que c'est un documentaire qui est déjà passé sur Netflix dans la section documentaire. Donc, c'est l'affaire Michael Peterson qui a, selon les dires, assassiné sa femme, Kathleen Peterson. Donc, on va s'attarder à ce sujet-là car il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, beaucoup d'éléments d'enquête qui sont louches, si on peut dire. Donc, et surtout, de très bons rebondissements. Donc, on commence ça dès maintenant avec le meurtre de Kathleen Peterson, l'affaire Michael Peterson. Donc, Michael Ivor Peterson est né en 1943, ce qui lui donne ça lui donne 75 ans. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université de la Caroline du Nord, Michael Peterson a été engagé, dans le fond, là, au département de la Défense des États-Unis. Il s'occupait de choses comme qui avaient rapport là, au Vietnam, là, la guerre du Vietnam. Cette année-là aussi, il a épousé Patricia Sue, qui, elle enseignait dans une école primaire là, à Grafenhausen, en Allemagne de l'Ouest. Ils ont eu deux enfants ensemble, Clayton et Todd. Et c'est ça. Donc, en 1968, M. Peterson il a décidé de s'enrôler lui, dans les Marines. Puis, il a servi au Vietnam. En 1971, il a reçu une mention honorable avec le grade de capitaine. De nombreuses années plus tard, pour sa campagne à la mairie, M. Peterson a déclaré avoir remporté une étoile d'argent lors de son service militaire, une étoile de bronze avec vaillance et deux cœurs violets. Des mentions honorables extraordinaires pour un militaire aux États-Unis, pour un Marines. Il avait toutes les médailles, mais a dit qu'il n'avait pas la documentation pour les obtenir. Il a affirmé avoir reçu un Purple Heart après avoir été touché par un éclat d'obus lorsqu'un soldat a marché sur une mine terrestre et lorsqu'il avait été abattu. Peterson admit plus tard que ses blessures de guerre n'étaient pas causées par des éclats d'obus au Vietnam, mais par un accident de la route au Japon. Ça change quand même beaucoup la donne. À cette époque-là, il était policier militaire. Donc, on peut voir un peu là, le genre d'homme que ça peut être. Là, un homme qui est prêt à mentir pour se monter lui-même là, sur un piédestal. Ça n'a pas été long que The News and Observer a déclaré que les dossiers ne contenaient aucune mention du deuxième Purple Heart que Peterson avait déclaré avoir reçu. Mais par contre, les dossiers militaires ont confirmé qu'il avait reçu une étoile d'argent et une médaille d'étoile de bronze avec valeur. Donc, il y a quand même son lot là, de médailles quand même. Par contre, il y a quand même des petits mensonges au niveau des éclats d'obus. Quand on sait maintenant que c'est un accident de la route au Japon. Continuons maintenant là, sur comme l'après-guerre, si on pourrait dire. Donc, Michael et Patricia Sue ont vécu pendant plusieurs années là, en Allemagne de l'Ouest, à Grafenhausen, comme je vous le disais plus tôt. Ils se sont liés d'amitié avec un couple, Elizabeth et George Radcliffe, que eux aussi avaient deux enfants à l'époque. Ils ont toujours, Margaret et Martha. Après la mort de George, les deux familles, dans le fond, Peterson et Radcliffe, sont devenues très proches. À la mort d'Elizabeth Radcliffe en 1985, Michael devient le tuteur légal des deux enfants de George et Martha. Oui. De George et Martha, mais d'Elizabeth et George, excusez-moi. Margaret et Martha étant les enfants, évidemment. Donc, c'est ce que je vous disais. Michael Peterson devient tuteur de Margaret et Martha Radcliffe. Après le divorce de Michael Peterson et de Patricia Sue en 1987, Clayton et Todd vivaient avec Patricia. Donc, ils vivaient avec leur mère Patricia. Margaret et Martha, elles, restèrent avec Michael Peterson, qui s'installa à Durham, en Caroline du Nord. Donc, ça fait c'est peut-être un peu mélangeant, là, mais je vais faire un petit récapitulatif rapide. Donc, Patricia Sue, son ex-femme, a gardé Clayton et Todd, ses enfants, là, leurs enfants, et Michael Peterson est parti avec Margaret et Martha en Caroline du Nord, lui qui était rendu tuteur légal des deux filles. Clayton et Todd rejoignirent leur père un peu plus tard, là, quelques années plus tard. Donc, Michael Peterson était un écrivain. Il était un très grand romancier. Il a écrit d'ailleurs trois livres, trois romans, basés sur ses expériences durant le conflit au Vietnam. Le premier, je crois, s'intitule « Le dragon immortel », le deuxième « Une période de guerre » et le troisième « Une paix amère ». Ça a tout rapport avec la guerre, donc c'est un écrivain qui se concentrait vraiment là, ses écrits là, sur la guerre. Il a aussi eu sa part de travail là, au niveau là, du journal local de Durham Herald Sun. Il était chroniqueur là, spéciaux. Là. Il parlait de tout et de rien, mais toujours au sens critique. Il critiquait beaucoup la police, il critiquait les procureurs là, du district. Il était tout le temps en train de critiquer, puis il ne mâchait pas ses mots dans le journal local. Ça lui a valu beaucoup de problèmes là, à ce niveau-là, avec la police locale, le procureur du comté, James Harding Jr., qui, malheureusement pour lui, a été le procureur lors du meurtre de Kathleen. Donc, il a beaucoup critiqué la police, beaucoup critiqué les procureurs de Durham. Ça augurait pas très bien là, pour Michael Peterson dès le départ, là, lorsque la fameuse soirée est arrivée. En 1989, il rencontra Kathleen Atwater, qui deviendra Kathleen Atwater Peterson, une dirigeante là, commerciale prospère de Nortel, qui est une compagnie de télécommunications, là, une des plus grandes à cette époque-là aux États-Unis. Alors, en 1997, Kathleen Atwater et Michael Peterson se sont mariés. Et Kathleen, la fille de Kathleen, a rejoint la famille qui comprenait déjà Clayton, Todd, Martha et Margaret. Donc, Kathleen rejoint tout ce beau monde pour former une très grande famille dans le manoir de Forest Hill de Michael Peterson. Maintenant, passons aux choses sérieuses avec la soirée fatidique de la mort de Kathleen Peterson. Alors, on est le 9 décembre 2001. En fin de soirée, même début de nuit, Michael et Kathleen avaient passé la soirée à boire du vin et à écouter des films en amoureux, comme la plupart des gens vont faire là, devant leur série préférée sur Netflix. Alors, Michael passa le coup de fil fatidique au 911. Il devait être dans les environs de 2h40, 2h45 du matin. Je ne sais pas s'il a eu la chance d'entendre ce coup de téléphone-là au 911. Tant clairement, Michael Peterson est complètement désemparé. Il est en crise, en panique. Il entend très bien là, quand la personne du 911, la répartitrice du 911, lui demande combien de marches il pense que Madame Kathleen a déboulé, parce que c'est ce qu'il disait là, dans l'appel, que sa femme avait déboulé les escaliers. Elle lui demande environ combien de marches. Il dit je sais pas, 15 ou 20. C'est vraiment très troublant comme appel. Moi, c'est un appel qui m'a marqué. Là. On l'entend gémir, respirer, puis à un moment donné, la personne au 911 lui parle. Il répond même pas, puis tout d'un coup, ça raccroche. Michael Peterson a affirmé par la suite qu'il avait été ensemble, lui et Kathleen, au bord de la piscine. Je ne sais pas si vous avez eu les chances d'avoir les images là, dans les documentaires, mais il y avait un manoir à Forest Hill, Michael Peterson. Puis à l'arrière, il y avait une très, très grosse piscine, une très grosse terrasse. Et puis, il se trouvait être au fond de la terrasse avec Kathleen, puis discutait dans le fond là, du film qu'ils venaient de regarder ensemble. Ils parlaient de tout et de rien. Puis, vers 2h30 du matin, Kathleen a décidé qu'elle elle retournait à l'intérieur parce qu'il faisait frais de 1, puis elle avait une grosse journée le lendemain pour son travail. Je pense qu'elle quittait en voyage, puis il fallait qu'elle aille se coucher. Donc, elle est partie seule à l'intérieur. Il dit, Michael Peterson, aux enquêteurs, qu'elle a dû tomber dans les escaliers après avoir consommé quand même une bonne dose d'alcool et un peu de Valium. Parce que Mme Peterson prenait du Valium pour aller se coucher le soir. Par contre, les résultats toxicologiques ont montré que le taux d'alcoolémie de sa femme était de 0,07, donc 70 mg par 100 ml de sang. Ce qui est très loin là, de mettre quelqu'un complètement KO par l'alcool ou désorienter quelqu'un, tomber partout. Donc, c'est louche un petit peu. Là. On s'est attendu peut-être à avoir un taux d'alcoolémie de, je sais pas moi, 0,10, 0,11 pour que quelqu'un déboule les escaliers. Le rapport d'autopsie conclut que la femme, qui était âgée de 48 ans, a subi de graves blessures, notamment une fracture du cartilage de la thyroïde au cou. Ce qui laisse penser, évidemment, qu'elle s'est cassé le cou en déboulant les escaliers. Elle avait aussi 7 lacérations au haut et à l'arrière de la tête. J'ai vu les images, c'est quand même... Les images, d'ailleurs, sont disponibles sur Google facilement. C'est quand même de très grosses lacérations qui sont compatibles avec des coups portés avec soit un objet, là, une batte de baseball... Ça peut être bien des choses, là. Ça peut être une bûche en bois, ça peut être un tisonnier, ça peut être bien des choses. On est comme pas sûr de ce qui s'est vraiment passé. La perte de sang aussi, qui était quand même extrême, là, concorde beaucoup avec un objet contondant, un bat de baseball ou un tisonnier ou quelque chose comme ça. Mais là, je sais pas, allez voir les photos sur Google, la perte de sang est extrême. On parle de beaucoup de sang au pied des escaliers. C'est vraiment troublant comme photo. La fille de Kathleen, et la sœur de Kathleen ont initialement proclamé l'innocence de Michael. Donc, eux étaient du côté de Michael Peterson. Ils croyaient que Michael était innocent et non coupable du meurtre de leur mère et sœur. Ils l'ont soutenu aux côtés de Todd, de Clayton, jusqu'à ce qu'une grosse nouvelle, une bombe, sorte. On apprend la bisexualité de Michael Peterson. Dès l'annonce de la bisexualité de Michael Peterson, les journaux, revues à potins, tout ce qui était nouvelle à l'époque, là, qui pouvait nous informer, ont repris ça, évidemment cette affaire-là. Mais là, du côté, du point de vue de est-ce que Michael Peterson cachait sa bisexualité à Kathleen? Et si oui, est-ce qu'ils étaient heureux en couple? Parce que les enquêteurs de l'époque qui interrogeaient la famille proche, les amis, voyaient vraiment là, aucune raison de s'attarder au couple heureux de Kathleen et de Michael Peterson. Selon les gens autour, c'était le mariage parfait, c'était le bonheur, c'était des meilleurs amis. Par contre, si on extrapole un petit peu, puis on se dit, oh, il y avait la bisexualité de Michael Peterson, il voulait peut-être cacher sa bisexualité à Kathleen. Kathleen a peut-être découvert, sans en suivre une chicane, et peut-être le meurtre. Alors, peut-être que la soirée là, de film et de vin n'est peut-être pas celle que Michael prétend. Ça peut être une toute autre type de soirée qui s'est passée. Ça peut être une soirée là, qui a mené à la mort de Kathleen, justement. À l'époque, les avocats de défense avaient engagé l'expert médico-légal, le docteur Henry Lee, c'est un des médecins reconnus là, au niveau là, aux États-Unis. Là. Il a, entre autres, travaillé sur le cas de la petite John Bennett Ramsey, qui sera un autre de mes sujets un peu plus tard là, dans la saison. Et O.J. Simpson et la réenquête de John F. Kennedy quand ils ont réouvert l'enquête. Donc, c'est un docteur qui, on va se le dire, là, qui a vraiment une bonne expérience au niveau là, de, des cas célèbres. Ce docteur-là, Henry Lee, qui avait été engagé par la défense, je le rappelle, a témoigné en cours que les éclaboussures de sang étaient compatibles avec une chute accidentelle dans l'escalier. Il arrive à cette conclusion-là, qui est complètement l'inverse pour la police locale. Eux concluent que les blessures ne correspondent pas avec un tel accident. Et comme Michael Peterson était la seule personne présente dans la résidence au moment du décès de Kathleen, ben c'est le principal suspect et a rapidement été accusé de son meurtre. Et évidemment, il a plaidé non coupable, Michael Peterson. Ce qui nous amène au docteur que l'accusation a engagé, le docteur Deborah Radish, qui est une médecin légiste, qui, elle, conclut que Kathleen est décédée des suites de lacération du cuir chevelu causée par un homicide. Selon le docteur Radish, les 7 lacérations au sommet à l'arrière de la tête de Kathleen étaient le résultat de coups répétés avec une arme qui est quand même assez légère, mais qui est quand même très rigide. La défense conteste évidemment cette théorie. Selon les analyses qu'eux ont faites, le crâne de Kathleen n'avait pas été fracturé par les coups, ni son cerveau n'avait été endommagé, ce qui était incompatible, dans le fond, avec les blessures là, subies après avoir été vraisemblablement battu à mort. Si on regarde aussi au niveau des éclaboussures de sang, ce qui est intéressant, quand on regarde au niveau de la cage d'escalier, les 3 ou 4 dernières marches, il y a beaucoup de sang sur les murs. Par contre, il n'y a aucune goutte de sang sur le plafond, le petit plafond là, juste au-dessus des escaliers. Et faut croire. Normalement, si quelqu'un matraque quelqu'un à coup de, je sais pas moi, de bâton sur la tête, vraisemblablement, avec le sang, il devrait avoir des traînées et des giclées et des gouttes qui vont au plafond, des gouttes de sang. Et là, curieusement, aucune goutte de sang est au plafond. Ce qui est intéressant, on regarde sur le mur qui est comme face aux escaliers, où il y a beaucoup de sang, on peut voir comme des traînées de gouttelettes, comme des traînées de gouttes dans le sang, mais des traînées de gouttes blanches, comme si on avait essayé de nettoyer le mur avec un produit de quelconque quand le sang était frais, puis ça avait comme dégoutté sur le sang, puis ça a fait des traînées blanches, comme si quelqu'un avait essayé de cacher des preuves ou... Il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de choses là, qui sont comme qui marchent pas. C'est vraiment intriguant, vraiment là. C'était vraiment un beau sujet là, qu'on traite ce soir. Alors, lors du procès de Michael Peterson, il fallait bien s'en attendre. Là, le procureur chargé de la poursuite s'est attaqué à la crédibilité de Michael Peterson, évidemment. Il a mis l'accent, dans le fond, sur ses déclarations erronées de son service militaire et sur ce qu'on peut décrire comme sa vie gay secrète, si on veut, et qu'il tenait surtout à garder secrète, hein, d'ailleurs. L'accusation affirmait que le mariage de Michael Peterson et de Kathleen était peut-être loin d'être heureux et prétendent que Kathleen aurait découvert la prétendue vie gay secrète de Michael. Et elle souhaitait mettre fin à leur mariage. Ce qui était la principale accusation, la principale motif d'accusation qu'on avait fait à l'époque là, pour le meurtre de Kathleen. L'autre motif que l'accusation a amené sur le tapis, c'était l'assurance vie de Kathleen qui était de 1,5 million de dollars. On sait maintenant aujourd'hui que Michael Peterson avait, à cette époque-là, des petits problèmes là, au niveau monétaire. Ça commençait à moins bien aller monétairement. C'était vraiment une théorie. C'était une autre théorie, là, l'assurance-vie. La défense, à l'époque, avait fait valoir que Kathleen avait accepté la bisexualité de Michael et que le mariage était très heureux. Ils étaient vraiment... Kathleen était au courant de ces petites sorties nocturnes avec des hommes. Et ça faisait son affaire à lui et à elle. Il n'en parlait pas beaucoup. Bon, tout le monde était heureux là-dedans, faut croire. L'accusation a déclaré que le meurtre avait très probablement été commis avec un tisonnier sur mesure appelé un coup de poing. La sœur de Kathleen, Candace, avait offert un cadeau au Peterson quelques années auparavant. Là, je pense que c'était un cadeau pour leur mariage. Mais ce tisonnier-là, comme par hasard, avait disparu de la maison au moment de l'enquête pour le meurtre. À la fin du procès, l'équipe de la défense de Michael Peterson a publié le soi-disant coup de poing, là, le tisonnier manquant, qui aurait été oublié par les enquêteurs dans le garage. Est-ce que c'est moi ou il y a Anguille Souroche là, après avoir fouillé à la maison des tonnes de fois de fond en comble, il retrouve le fameux tisonnier à côté sur une poutre dans le garage. C'est quasiment impossible, on va s'entendre. On le voit très bien dans le documentaire, il est couvert de toiles d'araignée, comme s'il n'avait pas servi depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les tests médico-légaux ont prouvé hors de tout doute là, que le tisonnier n'avait pas été utilisé depuis très longtemps. Alors, l'idée du tisonnier là, comme arme du crime eh bien, a été repoussée. C'est un autre rebondissement dans cette affaire-là. Et parlant de rebondissement, on en a tout un, même je dirais un coup de théâtre. En plein procès pour le meurtre de Kathleen, la défense ressort une vieille histoire datant de 1985, la mort d'Elizabeth Ratcliffe. Et là, mettez-vous dans la peau là, des membres, des avocats de la défense de Michael Peterson. On est peu de temps avant le procès qui va être médiatisé à la grandeur de la planète. Et juste avant que le procès s'entame, on sort cette nouvelle-là comme quoi que en 1985, Elizabeth Ratcliffe est retrouvée dans une mare de sang au pied de son escalier. C'est incroyable à quel point ils ont dû se sentir comme délaissés ou je sais pas comment l'expliquer, mais ils ont fallu qu'ils travaillent fort pour trouver une explication à tout ça. D'ailleurs, la défense s'est déplacée directement en Allemagne pour aller interroger les personnes qui étaient impliquées à l'époque, que ce soit les témoins ou même l'ex-femme de Michael Peterson est encore là. C'était inespéré pour aussi pour la poursuite là, qui n'en demandait pas tant là, dans le fond. Là. On va juste dire les faits rapidement, mais ce soir-là, les Peterson ont été invités à dîner chez Elizabeth Ratcliffe et ses filles. Puis après le souper, la femme de l'époque de Michael, Patricia, est partie seule chez elle. Michael est resté pour aider Elizabeth à mettre les enfants au lit avant de rentrer chez lui. Drôle de hasard. C'est la nounou des enfants, Barbara, qui a découvert le corps d'Elizabeth à son arrivée le lendemain matin. Et Michael Peterson était la dernière personne connue à voir vivante Elizabeth Ratcliffe. Lors de la première autopsie d'Elizabeth Ratcliffe, les médecins qui ont pratiqué l'autopsie en 1985 ont conclu qu'elle était décédée d'une hémorragie intracérébrale secondaire. C'est un trouble de la coagulation du sang. Ils sont aussi connus sous le nom de la maladie de von Willebrand. En raison de la présence de sang dans son liquide céphalo-rachidien et des rapports qui indiquaient qu'elle souffrait de maux de tête graves et persistants au cours des semaines précédant son décès. Donc, ils en ont conclu que c'était un problème au niveau de son sang. Le coroner a déterminé que l'hémorragie avait entraîné la mort immédiate. C'est comme un éclair, là. Boum! Dans la seconde. Suivi de la chute dans les escaliers après son effondrement. Donc, elle avait vraiment aucune chance là, de s'en sortir. Bon, alors là, c'est ce qu'ont conclu là, les premiers médecins en 1925. Par contre, parce que là, il y a un autre coup de théâtre, juste avant le procès de Michael Peterson, le tribunal de Durham ordonne l'exhumation du corps de Ratcliffe, qui était enterré très loin au Texas, pour une deuxième autopsie en avril 2003. Le corps d'Elizabeth Ratcliffe est dans un état pratiquement parfait. Il était comme un coffre. Ben, on pourrait dire, oui, un coffre qui était comme scellé. C'est vraiment spécial là, les images qu'on peut voir là, lors de l'exhumation. Donc, le corps est préservé d'une façon incroyable. Il a été ensuite transféré à Durham, du Texas vers Durham. Ça a pris un bon 2 jours. Là. Bien sûr, les avocats de la défense, eux, ne voulaient absolument pas que le corps soit transféré à Durham parce que c'était le même médecin légiste qui avait pratiqué l'autopsie de Kathleen. Et c'est normal que la défense s'oppose à ce que le même médecin légiste fasse une deuxième autopsie sur Elizabeth Ratcliffe, parce que les rapprochements auraient été beaucoup plus faciles à faire là, entre les deux cas. Là. Ce qui nous amène, dans le fond, là, au verdict qui a été prononcé le 10 octobre 2003, après l'un des procès les plus longs de l'histoire de Caroline du Nord. Le comté de Durham déclare Michael Peterson coupable du meurtre de Kathleen Peterson et le condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. On dit même qu'ils ont conclu que c'était un geste prémédité. Comme l'expliquait un juré, prémédité signifiait non seulement planifier des heures ou des jours à l'avance, mais aussi planifier les secondes qui suivaient le meurtre. C'est quelque chose. Là. Michael Peterson a été directement envoyé là, au centre correctionnel de Nash, près de Rocky Mount, jusqu'à sa libération le 16 décembre 2011. Et là, on est en 2003, on se transporte en 2011. Ça fait pas beaucoup de temps entre les deux. Là. C'est pour un meurtre avec préméditation. Mais les nouveaux avocats de la défense ont trouvé des failles dans l'accusation. En effet, on disait que on avait utilisé l'accusation avait eu recours à des témoins à un au moins un témoin expert dont les qualifications ont été contestées et que le jury a fondé son jugement sur des facteurs raciaux. Donc, on ressort M. Peterson de prison et il a le droit à être libre le temps que s'engage un nouveau procès. C'est incroyable. Donc, M. Peterson ressort de prison le 16 décembre 2011 pour fêter Noël avec sa famille. Et quand je dis avec sa famille, c'est que toute sa famille est là encore. Là, c'est vraiment des fêtes, là, c'est Noël. Il me reste une chose à vous parler sur... Ben, une ou deux petites choses, là, mais sur ce cas-là. Que je trouve que les gens ont oublié peut-être, dont une théorie que moi je trouve très intéressante, c'est la théorie du hibou. Bon, on peut trouver ça drôle, le hibou, là. Mais c'est pas fou quand même. Je vous explique. À la fin de l'année 2009, une nouvelle théorie sur la mort de Kathleen Peterson ressort. Elle aurait été attaquée par un hibou à l'extérieur alors qu'elle rentrait chez elle. Souvenez, entre la piscine et la maison. Elle aurait été attaquée par un hibou. Elle était tombée après s'être précipitée à l'intérieur et avait perdu connaissance après s'être frappée la tête contre la première marche des escaliers. La thèse du hibou peut sembler un peu loufoque, là. Mais la thèse du hibou évoquée par l'avocat de Durham, Lawrence Pollard, un voisin des Peterson qui n'était pas impliqué dans l'affaire, mais qui avait suivi les détails publics. Donc, Pollard était leur voisin. Il a approché la police, suggérant qu'un hibou aurait pu être tenu responsable. Et puis, c'est pas fou, parce que je sais pas si vous savez, mais les hibous peuvent attaquer. Et quand ils attaquent, c'est très dangereux, parce qu'ils ont des griffes qui sont quasiment un pouce et demi de long, et c'est très tranchant. Et quand il décide d'attaquer, ça peut être très dangereux pour la personne ou l'animal qui se fait attaquer. On peut en mourir. Et ça me fait penser un peu aux lacérations sur la tête de Kathleen. Donc, c'est ça. Donc, c'était la thèse du hibou. Il y a aussi le fait que cette théorie-là, elle semble absurde, mais très plausible. Parce qu'ils ont trouvé des plumes sur le corps de Kathleen Peterson. Ils ont envoyé ça dans un laboratoire là, qui regarde les empreintes génétiques au niveau des animaux. Et on mentionne que non seulement il y avait des plumes de hibou, mais qu'en plus il y avait une petite branche de bois dans les cheveux de Kathleen. Donc il y avait une touffe de cheveux là, ensanglantée, mais il y avait une branche de bois. C'est comme si le hibou tenait une branche de bois d'un côté puis attaquait de l'autre. Un autre examen qui a été effectué là, au niveau des cheveux de Kathleen prouve la présence de plusieurs plumes de hibou. Bien que Pollard n'ait pas parlé de cette théorie à qui que ce soit, le Durham Herald-Sun a publié un article ridiculisant et discréditant sa théorie. D'autres médias l'ont repris, propageant l'histoire de Herald-Sun qui a ensuite été critiqué pour son exactitude. Moi, personnellement, je suis un des défenseurs là, de cette théorie. Et les défenseurs de cette théorie affirment que d'autres preuves la corroborent, à savoir les blessures au cuir chevelu. Donc, les blessures au cuir chevelu, c'est des lacérations, 7 lacérations au total. Ensuite de ça, c'est comme si il appelle ça trilobé. C'est le terme qu'ils emploient. Conformément aux marques laissées par les cerfs, les plumes sont similaires à celles des pieds des chouettes. Des aiguilles de cèdre ont été trouvées sur les mains de Kathleen et sur son corps, qui était tombé dehors peu de temps avant d'entrer dans la maison, que son cerf avait éclaboussé l'escalier plutôt que de descendre, que ses traces dans son propre sein indiquaient qu'elle saignait déjà avant même d'arriver au pied de l'escalier, et que 2 gouttes de sang ont été trouvées à l'extérieur de la maison, sur le trottoir. Donc, ça se tient, là. Vraiment, là. Elle est dehors, elle se fait attaquer par un hibou. Ensuite de ça, le sang retrouvé dehors, elle court en dedans, elle panique, le hibou l'attaque sur sa tête. Voilà, tu sais, elle glisse dans son sang, puis elle se cogne, elle est en panique. Je trouve que c'est une théorie, là. Pour vrai, là. Je pense que c'est la meilleure. Les avocats soulignent également que les attaques de chouettes contre des personnes sont fréquentes dans la région. Une victime a déclaré que l'impact était similaire à un coup à la tête avec une batte de baseball. Donc, c'est pas fou. C'est sûr qu'il reste le fait que Michael Peterson a été relié dans une histoire en 1995 d'une femme morte dans des escaliers aussi. Bon. Il y a ça qui me laisse perplexe, mais je trouve la théorie du hibou excellente aussi. Si je regarde, là, Patrick T. Riddick, le professeur de médecine vétérinaire à l'Université du Minnesota, qui écrit « De mon point de vue professionnel, l'agression supposée au visage et à la nuque ayant pour résultat des diverses perforations et lacérations visibles sur les photographies d'autopsie est entièrement dans le répertoire comportemental des grands hiboux. » Donc, confirme que c'est une attaque de hibou. C'est spécial, pareil. Là. Kate Davis, qui est la directrice exécutive de Raptors of the Rockies, un projet d'éducation et de réhabilitation de la faune dans l'ouest du Montana, écrit les phrases suivantes. « Les lacérations sur le cuir chevelu de Mme Peterson ressemblent beaucoup à celles des serres d'un rapace, en particulier si elle avait été déchirée de force. Cela expliquerait les plumes trouvées dans sa main et les nombreux cheveux tirés par la racine brisée ou coupée. La taille et la façon que les lacérations sont faites pourraient certainement indiquer les pieds d'un hibou barré. Davis a en outre noté que les hiboux peuvent tuer des espèces beaucoup plus grandes qu'eux et qu'il n'est pas rare qu'ils attaquent les gens. Malgré l'intérêt porté à cette théorie par certains avocats extérieurs, aucune requête en nouveau procès n'a été déposée sur ce point en 2009. » Alors, vous voyez que la théorie du hibou, reste quand même une très bonne théorie. Là, on va rentrer un petit peu dans les technicalités parce qu'il y a eu une très très grave erreur là, au niveau du SBI, là, eux qui sont les experts pour les taches de sang et ces choses-là là, aux États-Unis. En août 2010, à la suite d'une série d'articles de journaux critiquant les tactiques d'enquête des agents du bureau des enquêtes du procureur général, le procureur général Roy Cooper a ouvert une enquête qui avait abouti à la suspension de l'analyste du FBI, j'ai bien dit, Dwayne Dever, l'un des principaux témoins à l'encontre de M. Peterson. Donc, si, le pourquoi que M. Peterson est en prison, il le doit à Dwayne Dever. C'est lui qui a été le témoin clé de l'accusation. Son travail sur le cas de Michael Peterson à Dwayne Dever a été reconnu comme étant l'une des pires erreurs judiciaires d'affaires criminelles depuis des années et des années là, aux États-Unis. C'est pas croyable quand on pense que c'est quand même la vie d'un homme là, qui est en jeu. Une nouvelle requête a été déposée en août 2010 par David Rudolph, qui était le premier avocat en 2003 de Michael Peterson pour, dans le fond, là, pour sortir les papiers là, que Dwayne Dever avait signés de sa main en 2003 lors des tests qu'il avait fait. Dever a été, bon, c'est drôle, hein? Dever a été licencié du FBI en janvier 2011 après un audit indépendant de l'agence qui avait révélé qu'il avait présenté des preuves fausses dans 34 affaires. Il avait notamment retenu des résultats négatifs de l'affaire Greg Taylor, un homme de la Caroline du Nord, qui avait passé 17 ans en prison, condamné pour meurtre basé sur le témoignage de Dever encore une fois. Une équipe d'analyse de taches de sang formée par Dever a été suspendue et dissoute. Lors du procès de Peterson en 2003, Dever a déclaré qu'il avait été encadré par David Spittle, spécialiste des taches de sang chez FBI, qui avait traité 500 cas de taches de sang, rédigé 200 rapports et fait état de 60 cas. Lors de la nouvelle audience, le directeur adjoint du FBI, Eric Hooks, a déclaré que Dever n'avait rédigé que 47 rapports au total. L'agent du FBI, David Spittle, a déclaré dans son témoignage qu'il ne se souvenait pas du mentorat de Dever. Après avoir suivi une formation de 2 jours dans les années 80, il n'avait témoigné que dans 4 affaires. L'affaire Peterson étant le 3e, le FBI a assisté l'analyste de taches de sang présenté dans le 4e cas comme raison du licenciement de Dever. C'est incroyable, là. C'est tellement amateur là, comme façon de faire pour un grand procès comme ça. Le 16 décembre 2011, Peterson a été libéré de la prison du comté de Durham, moyennant une caution de 300 000 $ et placé en résidence surveillée avec une comme un GPS là, au niveau de sa cheville. Cette libération sous caution fait suite à une ordonnance judiciaire relative à un nouveau procès après que le juge Hudson eut constaté que Dwayne Dever, analyste en taches de sang chez FBI, avait présenté un témoignage trompeur et délibérément faux sur des preuves de taches de sang et avait exagéré sa formation, son expérience et son expertise. C'est incroyable. En juillet 2014, les restrictions sur les obligations de Peterson ont été assouplies. En octobre 2014, maintenant, le tribunal a nommé Mike Klinkhausen pour représenter Peterson en remplacement de David Rudolph, qui travaillait bénévolement dans cette affaire depuis l'annulation de la condamnation de Peterson. Rudolph a déclaré qu'il ne pouvait plus se permettre de représenter Peterson sans être payé. Le 14 novembre 2016, la demande de Michael Peterson à ce que le deuxième procès soit rejeté a été rejetée et un nouveau procès devait s'ouvrir le 8 mai 2017. Un reportage du 7 février 2017 indiquait toutefois qu'une résolution aurait été prise et dans le fond, il avait négocié avec David Rudolph et le procureur du comté de Durham pour faire le plaidoyer d'Alford. Donc, ça nous amène au 24 février 2017. Michael Peterson a inscrit un plaidoyer d'Alford. C'est un plaidoyer, dans le fond, de culpabilité. Il existe suffisamment de preuves pour le convaincre du délit, mais le défendeur affirme son innocence. C'est à peu près ça, là, le plaidoyer d'Alford. À l'homicide de Kathleen Peterson, évidemment. Le juge l'a condamné à une peine maximale de 86 mois d'emprisonnement, Compte tenu du temps passé précédemment, de 2003 à 2011, Pettersson avait déjà purgé plus de temps que la peine. Il avait purgé, dans le fond, 98,5 mois. Donc, il n'a pas été condamné à une peine supplémentaire. En octobre 2002, juste en tant qu'administrateur de la succession de Kathleen, Caitlin a déposé une demande d'indemnité pour le décès de sa mère contre Michael. En juin 2006, il a volontairement déclaré faillite. Deux semaines plus tard, Caitlin a formé une opposition à la faillite. Le 1er, c'est incroyable, la saga. Le 1er février 2007, Caitlin et Michael ont réglé la réclamation pour décès injustifié à 25 millions de dollars dans l'attente de son acceptation par les tribunaux. Et ça a été annoncé et concrétisé le 1er février 2008. Donc Caitlin est une femme riche de 25 millions de dollars. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses à dire pour un... Il y a tellement de chair après l'os dans ce... Dans ce cas-là. Il y a déjà un film qui est sorti sur Netflix, le documentaire. Moi, j'ai consacré ce temps-là pour vous parce que des fois, on est en voiture, on est au travail, on est à l'école, puis on n'a pas nécessairement accès à des vidéos là, Netflix, là, on s'entend. J'espère que je vais vous avoir donné le goût d'écouter le documentaire qui est encore plus étoffé. Là. On a des images. Ce qui est intéressant dans ce documentaire-là, c'est que dès les premiers moments du meurtre, on embarque dans une série télé-réalité. Comme on suit les avocats de la défense de A à Z. Donc, quand je dis A à Z, c'est qu'on va sur les lieux du crime, on voit le sang, on voit les photos, on voit tout. Là, il n'y a rien qui nous empêche. C'était un documentaire choc, là, je vous dis, là, c'est extraordinaire, mais à écouter et à réécouter, et voilà, c'était vraiment un plaisir de faire ce podcast-là sur l'affaire Michael Pettersson. Juste mentionner qu'il y a le premier film Soupçon, ou The Staircase en anglais, et il y a le deuxième aussi, The Staircase 2. Qui était dans le fond, qui parle un peu du deuxième procès là, de Michael Pettersson, un peu moins intéressant, on s'entend, mais quand même très 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 bon documentaire, le Staircase. Alors, j'espère qu'on va pouvoir se revoir pour l'épisode numéro 2 de... Klaus, raconteur et enquêteur, qui devrait sortir sous peu, ça sera le podcast sur John Bennett Ramsey, un autre cas qui me bouleversait quand j'étais un petit peu plus jeune et qui fait qu'aujourd'hui, ben, je fais des podcasts et je raconte des histoires. Donc, si vous avez aimé mon podcast, qui était mon premier en fait, hein, donc... ça peut paraître super facile comme je m'attendais. Je me disais, oh, ça va être simple. Mais finalement, je m'aperçois que on coupe souvent, on recommence. C'est compliqué. J'en ai passé une journée complète à faire ce podcast-là. Si vous avez aimé mon podcast, thumbs up. Sinon, ben, vous pouvez toujours m'écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez que j'améliore. Vous pouvez aussi me proposer des dossiers là, qui vous tiennent à cœur, qui vous ont traumatisé quand vous étiez plus jeune ou dernièrement. Et ça va me faire plaisir là, d'étudier les dossiers et de raconter et d'enquêter là, sur ces cas-là qui vous bouleversent vous aussi. La semaine prochaine, on s'invite dans la maison de John Bennett Ramsey et on va aller essayer de découvrir le mystère qui entoure la mort de cette petite fille. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut.